Bonjour à tous, une semaine formidable comme tous les lundis sur Radio Rythme Bleu, transformé, vous le savez, pendant toute la durée de la Coupe du Monde de rugby en club rugby. Avec nos quatre invités, nous allons revenir sur notamment les matchs du week-end et puis nous parlerons bien sûr du prochain match de l'équipe de France. Ce sera mercredi soir, deuxième match de la compétition face aux États-Unis. Avec nous sur ce plateau des habitués, Pierre Forest, Bruno Salvé, il y a aussi Frédéric Laurent qui nous rejoint pour la première fois, ancien manager de l'équipe de Nouvelle-Calédonie, mais aussi de Fidji de rugby à 7. On parlera un mot des Fidji. Nous avons le plaisir aussi d'avoir avec nous Philippe Rouget-Thomas, ancien demi de mêlée notamment de Toulouse, demi d'ouverture pardon de Toulouse et actuellement à la Fédération Française de Rugby. Vous êtes particulièrement en charge de la formation. Je crois que c'est d'ailleurs ça qui vous amène en Calédonie ces jours-ci.
Tout à fait, oui, je suis là pour le pôle espoir, voir un petit peu comment ça se passe et apporter un petit peu des ajustements qui nous viennent de la métropole et dont on veut faire profiter le pôle espoir de Nouméa.
Et après Nouméa, vous partez pour le Japon, tiens donc.
Tout à fait, on va voir les deux derniers matchs de l'équipe de France et soutenir notre équipe qui a fait un très bon premier match et maintenant on attend des nouvelles du Typhon pour savoir s'ils vont jouer, mais j'espère que ça va le faire.
Il va passer ailleurs. On va parler évidemment du match de l'équipe de France contre les États-Unis dans la deuxième partie de cette émission. Avant, revenons sur évidemment les temps forts du week-end. Alors, il y a eu la victoire de l'Argentine 28-12, pas grand-chose à en dire, si ce n'est que c'est quand même la poule de la France et que ça nous intéresse un peu quand même, Bruno Salvé, une victoire sans convaincre des Argentins.
Oui, ils ont levé le pied à partir du moment où ils ont marqué leur 4 essais, là, leur point de bonus. Voilà, ça a été une gestion du match. Un match pas beaucoup d'envolée. Voilà, petit bras, quoi. Ils l'ont joué petit bras. Après, je pense que c'est aussi stratégique, hein, économiser aussi les organismes, parce que bon, ça tapait fort en face quand même. Hein, c'est les Tongiens. On sait comment ces joueurs sont costauds. Voilà, donc pas un super match de rugby. Ouais.
Alors, on va pas s'étendre un petit mot avec vous, Philippe Rouget-Thomas, justement, sur cette formule Coupe du Monde, parce que forcément, il y a des phases de poule. Donc, quand il y a des gros chocs, on voit des équipes qui se livrent. On l'a vu ce week-end notamment. Mais quand il y a des matchs un peu plus déséquilibrés, on sent que certaines équipes jouent quand même un peu sur la réserve. Hein. Il faut tenir la compétition, quoi.
Il faut tenir la compétition, il faut faire participer tout le groupe, donc c'est peut-être un peu ce qui a permis aux Japonais de battre les Irlandais, en sachant que dans notre sport, il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire, et puis ça peut créer des surprises. Nous avons eu encore une fois la preuve qu'aujourd'hui, il n'y a pas de petite équipe, tout le monde est à respecter, et voilà, donc il faut faire attention, et cette compétition est vraiment dangereuse, puisque en voulant faire tourner ses titulaires, on prend le risque aussi d'avoir un petit écueil, et c'est ce qui s'est passé pour les Irlandais.
À propos de surprise, il y a eu la victoire de l'Uruguay sur les Fidji, Frédéric Laurent, vous avez vu ce match, on a l'impression que les Fidjiens ne sont pas au niveau vraiment où on les attendait hein, sur cette Coupe du Monde.
Ben, étonnamment non, ils sont pourtant partis avec, d'après les observateurs les plus pointus, avec le meilleur groupe et la meilleure équipe qu'ils aient jamais amené, au vu des individualités. Alors sur le papier, c'est vrai, mais en fait sur le terrain, on voit que quand ça passe aux joueurs plan B ou plan C, ben c'est plus, il y a plus d'équipe. On a l'impression qu'il y a, c'est une somme d'individualités, mais qui fait pas une équipe.
Bono,
je pense que pour appuyer ce que disait Philippe il y a deux minutes, je pense qu'il y a eu aussi entre guillemets un manque de respect aussi des Fidjiens vis-à-vis des Uruguayens, quoi, parce que ils ont marqué assez rapidement dans le match et après on les a vus, ils se sont retrouvés dans des situations favorables pour aller marquer et sans accélérer, en jouant un peu à la baballe, en essayant de faire le spectacle, alors que bah, ils auraient dû tuer le match plus facilement, et puis ils se le sont compliqués, et puis ça a permis aux autres d'avoir un peu plus de confiance, surtout ils ont sorti le match de leur vie, hein, les Uruguayens, et puis voilà.
Et c'était leur premier match, ils étaient frais, et le dernier match Fidji-Uruguay, c'était 67-15.
Oui, voilà.
Donc c'est pour ça qu'ils ont peut-être pris un peu à la légère.
Les Fidji battus sur l'Uruguay, et l'Uruguay corrigé ce week-end par la Géorgie, 33-7, en plus, ça montre bien les niveaux. Alors, on va revenir quand même sur les deux matchs phares hein, de ce week-end. Le premier, c'est Japon-Irlande. Pierre Forest, surprise, la victoire des Japonais, 19-12 sur les Irlandais.
Effectivement, hein, on s'attend. Enfin, moi, en tout cas, je n'attendais pas les Japonais à ce niveau-là. C'est vrai que tout le monde était prévenu. Hein. Il y a 4 ans, ils avaient, par manque de respect des Sud-Africains, ils les avaient battus à la dernière Coupe du Monde. Et puis, dans cette poule, je les voyais plutôt accrocher, voire battre les Écossais. Or, l'Irlande, qui sort quand même en tête du classement, hein, du classement mondial.
Mondial, oui, oui. Mais sur une équipe un peu vieillissante, quand même.
Un peu vieillissante, mais surtout, je crois, ils ont manqué de respect vis-à-vis de ces Japonais qui ont joué le match, je suis tenté de dire, de leur vie, mais ils ont fait en dos des matchs comme ça, avec très peu de fautes. Une deuxième mi-temps qu'ils ont dominé de bout en bout, et c'est extraordinaire. Je veux dire, ça remet un petit peu en question tout ce que les pronostics ont mis en place, etc., avec les favoris, etc. Et il serait dommage qu'ils n'aillent pas plus loin. C'est vrai que leur poule, qu'ils sortent premier ou second, ben, ils vont rencontrer le premier ou deuxième de la fameuse poule où il y a les Blacks et l'Afrique du Sud. Donc, mais on n'est pas au bout du suspense.
Ils sont chez eux en plus. Hein.
Et ils sont chez eux.
Philippe Roger Thomas, vous êtes d'accord? Ils ont joué le match de leur vie ou ça traduit aussi une évolution du rugby japonais?
Ils nous ont battus à nous aussi. Donc vrai. On voit bien que
on avait tendance à l'oublier.
Je pense qu'ils sont sûrs de leur force. Ils ont conscience de leur faiblesse. Ils sont pas massifs. Par contre, ils sont très forts dans le déplacement. Ils sont très forts en technique individuelle. Ils sont très précis. Ils respectent beaucoup les consignes. C'est vraiment une équipe qui est très dangereuse, parce que si tu as le malheur de les galvauder ou de penser que tu vas les prendre sur la force, ben eux, ils te font courir, ils t'épuisent, et puis à un moment donné, ça craque, quoi. Et donc, c'est ce qu'ils ont appliqué depuis beaucoup de temps maintenant, et c'est une équipe très dangereuse, la preuve. Donc, il faut vraiment les prendre au sérieux, bien évidemment, comme tout participant à la Coupe du Monde et dans une compétition. Et après, je voudrais revenir un peu sur la spécificité du rugby, c'est qu'une somme de très très bons joueurs ne fait pas forcément une équipe, puisqu'il faut partager, il faut être assez humble pour aider son pote à côté quand il y a une faiblesse et pas penser qu'on est la star d'un soir. Voilà, et donc on est puni régulièrement dans notre sport quand on pense qu'une individualité va faire un collectif, quoi.
Bruno Salvet, on a vu des Japonais extrêmement bien organisés, on les a vus notamment au plaquage, il y en a toujours un aux jambes et un sur le haut du corps, toujours à deux, très respectueux dans les rucks, ouais, c'était une équipe remarquablement organisée. Hein.
Très bien, très bien organisée, qui met énormément de vitesse, comme le disait à l'instant Philippe, il n'y a pas de vedette dans ce groupe-là, donc tout le monde se donne pour les coéquipiers, et on se rend compte que le système irlandais, qui était pourtant un système très bien organisé, très, très structuré, avec une défense vraiment qui montait très très vite, qui coupait les extérieurs, et puis surtout c'est cette capacité à mettre de la vitesse, à gagner les duels, hein, un peu comme la première mi-temps de l'équipe de France, hein, à partir du moment où on met de la vitesse, où on gagne ces duels, où on arrive à déstabiliser l'adversaire, on crée de l'incertitude, et donc eux, ils ont été en permanence des poisons pour ces joueurs irlandais, surtout notamment en deuxième mi-temps, comme disait Pierre, hein, les Irlandais n'ont pratiquement pas touché le ballon.
Est-ce qu'ils n'ont pas un peu baissé les bras, les Irlandais? On n'a pas eu l'impression, hein, mais...
Je pense qu'ils avaient plus de ballon après, hein, ils ont été privés de ballon. Ils ont quand même, les Japonais sont permis de gagner la bataille des rucks sur ce match-là quand même. Mmh. Alors que les Irlandais sont réputés dans ce secteur du jeu avec une troisième ligne qui est de haut niveau. En mêlée fermée, on pensait qu'ils allaient se faire bouger. Ben non, la mêlée, elle a été stable. Elle n'a pas bougé. Donc ils sont en constant progrès et c'était très agréable à voir.
Ouais. Un mot sur cette équipe d'Irlande, Frédéric Laurent, je le disais, une équipe. On va pas dire vieillissante parce que ce serait peut-être un petit peu fort, mais une équipe qui a beaucoup tourné. On voit un Sexton qui est un peu en fin de carrière et qui a pas joué ce match. On sent que les Irlandais ont du mal à retrouver un petit peu quand même le fameux. On parle du fighting spirit, mais on sent qu'ils ont du mal.
Oui, Sexton, c'est un peu un point d'interrogation. On sait pas trop s'il va finir la Coupe du Monde ou pas. On sait pas trop dans quel état il est. Il était visiblement blessé un peu avant. Ça s'est un peu aggravé. Donc c'est vrai que c'est un point d'interrogation. Mais c'est vrai que c'est quand même lui qui a une partie des clés du camion dans cette équipe, hein, et depuis longtemps. Ils ont beaucoup fait tourner, et je crois que le niveau s'en est ressenti, et face à la fougue des Japonais et aussi à la discipline, ils font très très peu de fautes, donc c'est difficile de les jouer, hein.
Alors, autre gros match, hein, ce week-end, c'était hier soir, c'est l'Australie face au Pays de Galles. Finalement, c'est le Pays de Galles qui s'impose un peu au bout du suspense, 29-25. Philippe Rouget-Thomas, quel regard vous portez sur ce match, parce que là on a joué aussi à plein, hein, des deux côtés, hein.
Ben là, c'est deux équipes qui font partie des favorites de cette compétition, donc c'est une première approche qu'ils ont eue là pour se confronter. On a vu que les Australiens ont proposé du mouvement et que les Gallois ont été très costauds en défense, puisque c'est quand même une de leurs grosses qualités, c'est d'être très efficace en défense et de prendre les points dès qu'ils se présentent. Ils sont très bons en contre, ils sont très costauds derrière, ils ont des... alors que les Australiens sont un peu plus félins, je dirais, et donc ils ont eu cette grosse défense en face qui permet au Pays de Galles d'emporter le match. Et donc on a vu un petit peu ce que va proposer le Pays de Galles dans cette Coupe du Monde. C'était une très très grosse défense, ce qu'ils ont fait d'ailleurs au niveau des tournois destination. Et voilà, donc
une entame de jeu aussi catastrophique des Australiens.
Comme contre les Fidjiens. Hein. Ouais, on a l'impression qu'ils sont un peu diesel quand même au démarrage.
Au bout de la première minute, ballon perdu sur le premier rug par le capitaine, là, Hooper, drop. Après une interception complètement improbable, je veux dire, c'est...
D'autant plus qu'aux Gallois, il ne faut pas leur proposer ce genre de jeu. Oui. Il faut être très précis, parce que la défense est très, très, très organisée. C'est la meilleure défense au monde.
Et ils ont des gros relanceurs, en plus.
Ouais. En plus. Ouais, mais ils jouent beaucoup comme ça. Quoi.
Pierre Forest, une petite déception du côté de l'Australie, notamment sur la charnière qui a débuté le match. Ouais. Guenya Follet, on s'attendait
très
à mieux que ça.
Très mauvaise première mi-temps, et avec une charnière qui jouait très, très lentement. Et puis Follet, qui n'était vraiment pas la...
Pas la hauteur.
Ouais, je pensais ne pas le revoir quand ils ont repris la demi-temps. Mais il a encore continué à lui faire confiance et on a vu la différence avec Tomoa qui généralement était un centre hein, qui à l'ouverture dynamise le jeu, joue beaucoup plus vite donc
Et un demi de mêlée, Nick Phipps, qui n'avait pas fait un super match contre les Fidjiens et qui a fait une belle deuxième mi-temps contre le Pays de Galles.
Oui, alors que c'était la charnière qui avait réussi à battre les All Blacks dans les tournois des 4 nations. Là, il y a un coup de mou, là. On ne sait pas trop bien. Donc, c'est dommage parce qu'ils reviennent bien. Il y a une deuxième mi-temps complètement à l'avantage des Australiens.
Bon, physiquement. Oui, ils auraient pu s'imposer. Il faut quand même reconnaître qu'ils auraient pu s'imposer.
Ça fait plusieurs années que la charnière australienne bat un peu de l'aile. Un coup, c'est le demi de mêlée, un coup, c'est le demi d'ouverture. Ils sont toujours avec des gens qui sont là depuis quand même pas mal de temps. On voit qu'il n'y a pas vraiment de renouvellement. Et je crois que le poids des années commence à se faire sentir. Et surtout, une grosse, grosse irrégularité. Et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas.
Alors, l'Irlande, l'Australie, on voit que ce sont deux équipes favorites qui n'ont plus trop le droit à l'erreur hein, dans cette compétition. Donc, il faudra suivre éventuellement leur prochaine rencontre. Même si pour l'une comme pour l'autre, les plus gros sont passés hein, dans les matchs. Mais enfin, bon, on verra ce que réserve la suite de la compétition. On va marquer une page de publicité dans ce magazine. Et on se retrouve juste après avec nos invités pour parler évidemment du prochain match de l'équipe de France. Ce sera mercredi soir face aux États-Unis.
RRB, la pub.
House, c'est votre spécialiste aménagement et déco à petit prix, ouvert 7 jours sur 7 au quartier latin. Matelas, meubles, rideaux, canapés, linge de maison, mobilier de jardin, vous trouverez tout, tout, tout pour la maison au meilleur prix. House, le discount design.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
Mais ne te mets pas dans cet état, fais comme moi. Va chez AXA Agence Ixone, la galerie Centralma. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Matériaux Center, votre magasin incontournable en matériaux de construction et dérivés pour les pros et les particuliers depuis plus de 45 ans. Réalisez tous vos projets avec Matériaux Center.
Et l'on retourne sur le terrain avec vous et vos invités.
La deuxième partie de ce C'est Sportmidable Club Rugby à l'occasion de la Coupe du Monde. Nous allons donc parler du prochain match, du deuxième match de l'équipe de France en espérant qu'il ait lieu parce que vous savez qu'il y a des risques de typhon et qu'en cas de typhon, l'organisation a décidé que les matchs seraient déclarés comme des matchs nuls et que chaque équipe repartirait avec 2 points, ce qui est évidemment embêtant parce que tout le monde cherche sur ces matchs-là le bonus offensif, 4 essais et 1 point supplémentaire sur le tableau d'affichage. Alors, France-États-Unis, Philippe Rouget-Thomas, visiblement le sélectionneur et le staff ils ont décidé de beaucoup changer de joueurs, hein, 12 changements, est-ce que c'est bien de procéder comme ça dans une Coupe du Monde ?
Ben, y a plusieurs options mais là on voit bien que les deux gros matchs qui viennent derrière, Tonga et Angleterre, il faut bien préserver les organismes. On a eu un gros match contre l'Argentine et bien sûr il faut voir tout le monde et c'est l'occasion peut-être sur une équipe qui semble la plus faible de la poule, de faire tourner à ce moment-là. Quoi.
Avoir eu 12 jours de récupération, c'est bien ?
Je pense que c'est bien dans une compétition comme ça. Maintenant, il ne faut pas que cette coupure se reproduise, mais on va partir sur les deux derniers matchs très costauds, et derrière l'Angleterre, et puis après les phases finales. Donc, souffler un petit peu, et notamment nos garçons qui ont quand même fait un très gros match contre l'Argentine, parce qu'ils... C'est toujours particulier contre nos cousins argentins. Ils sont très difficiles à manœuvrer. On a bien vu la deuxième mi-temps, c'était très compliqué. Il a fallu s'employer et s'exposer. On n'a pas pu. Le coach n'a pas pu faire tourner, je pense, comme il aurait voulu, il aurait souhaité. Et donc, voilà, l'occasion de rencontrer les États-Unis va permettre de faire souffler certains joueurs. Et c'est peut-être une bonne chose pour après enclencher sur une dynamique
Sur les deux derniers matchs de poule qui est resté.
Les deux derniers matchs de poule et ensuite le quart de finale que nous souhaitons tous.
Oui, mais on ne sait pas encore contre qui, mais ce sera forcément un gros quart de finale, bien évidemment. Pierre Forest, comment vous voyez ce match?
D'abord, comme dit Philippe, je crois que c'est bien de faire tourner les effectifs. Il y a quand même un effectif de 31 joueurs, donc c'est de voir où en sont les 10 remplaçants, entre guillemets. Et puis je crois que dans les remplaçants, il y a déjà les titulaires du premier match. Donc enchaîner avec les États-Unis, 6 jours après les Tonga et 4 jours après, je crois, les Anglais. Donc il faut quand même aménager sa monture, comme on dit. Donc c'est une bonne chose. Et puis les remplaçants sont très près également des titulaires. Donc il n'y a pas de... Je vois bien, c'est bien de l'avoir tourné. Ouais.
On a une particularité aussi, peut-être par rapport aux autres équipes, c'est qu'on a eu un petit bouleversement de coach et de manager de l'équipe de France. Et donc, peut-être qu'on a moins d'incertitudes que les autres groupes sur l'équipe type, vraiment. Et donc, peut-être c'est l'occasion de pouvoir préparer au mieux ces 3 derniers matchs et puis éventuellement le quart de finale. Donc voir tout le monde, c'est une très bonne chose.
L'équipe type, vous l'avez dit, on a vu Jacques Brunel souvent hésiter sur les compositions d'équipe avant cette Coupe du Monde, notamment sur le tournoi. Vous pensez aujourd'hui qu'il a en tête une équipe type, en tout cas une ossature
Je pense oui, mais il a pas trop hésité. Je pense qu'il essaie de voir. Il arrive peut-être en cours de fonctionnement pour une année Coupe du Monde. C'était peut-être un peu compliqué pour lui, et donc il a essayé de voir le maximum de joueurs, se faire son idée. Puis c'est quelqu'un quand même qui a une maîtrise de... Voilà, et donc il sait où il va. Quand même.
Oui, il sait où il va.
Oui. Ouais, tout à fait.
Je pense que sur ce match-là aussi, ça va lui permettre aussi de faire certains choix, notamment au niveau de la deuxième ligne, quoi, parce qu'on se rappelle que contre les Argentins, il avait aligné Uturia en deuxième ligne alors que c'est un troisième ligne. Là, il aligne quand même Leroux et puis
Gabriel.
Donc je pense qu'entre Leroux et Gabriel, il y a aussi une place à prendre. Et puis c'est bien aussi que l'ensemble du groupe soit impliqué, quoi, qu'il puisse y avoir aussi ce turnover qui va permettre aussi aux joueurs qui sont normalement remplaçants de se montrer et puis d'essayer de faire de leur mieux pour pouvoir intégrer.
Et de se maintenir dans un certain niveau d'exigence.
Oui, et puis surtout se montrer, quoi. Je pense qu'il y a des places à prendre, quoi. Il y a encore un match contre le Tonga avant l'Angleterre. Donc voilà.
Frédéric.
Oui, parce que c'est vrai que c'est un peu la dernière occasion, puisqu'il y a eu 12 jours pratiquement de repos.
Là, on va enchaîner.
Et là, ils enchaînent 3 matchs en 10 jours. Donc,
et ils terminent par l'Angleterre.
Oui, c'est vrai que sauf incident, sauf blessure, l'équipe doit commencer vraiment à se dessiner fortement, et c'est vraiment bien de faire une dernière revue d'effectifs sur ce match-là.
Mais Pierre Forest ?
Mais l'Angleterre aura eu comme avant-dernier match l'Argentine quand même, qui sera décisif, et même pour les Français, c'est-à-dire si les Anglais gagnent, on sait à peu près à quoi s'en tenir, et maintenant si les Argentins qui battent les Anglais, il faut...
Vous pensez qu'une surprise est possible ? Vous pensez que les Argentins, au vu de ce qu'on a déjà vu sur le début de la compétition, peuvent poser des problèmes en anglais ?
Je pense rien du tout, parce qu'on a... Avec tous les pronostics qu'on avait donnés, on n'est pas bien. Bon,
mais ce cas de figure,
ça dépend qui.
Le seul qui avait donné des bons pronostics, c'est Thierry, mais bon, il n'est pas là aujourd'hui.
On l'invitera, oui.
On l'invitera la prochaine fois. Non, ça veut dire ça remet tout en cause. C'est-à-dire que je vois bien les Argentins, s'il y a bien une équipe qui peut battre les Anglais, c'est bien les Argentins. Ils sont dos au mur. Ils n'ont pas d'autre choix que de battre les Anglais pour se qualifier. Donc si c'est le cas, il faudra revoir la règle de 3.
Voilà. Donc ce qui veut dire que si jamais il y avait ce cas de figure, il vaut mieux pas qu'il y ait de typhon qui passe par là, parce que ça serait un problème pour nous.
C'est clair, contre les États-Unis, il faut qu'on marque 5 points, victoire plus le bonus offensif.
Là, c'est indispensable, tout à fait. Et puis ensuite, si jamais il y avait la règle du typhon, on serait dans le salora si jamais l'Argentine venait à battre les Anglais.
Oui, on pourrait se retrouver exclu pour faire le typhon des quarts de finale.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Est-ce qu'il faut prendre cette équipe des États-Unis au sérieux ? Vous l'avez dit, il ne faut pas se moquer de l'adversaire. Est-ce qu'il faut quand même se méfier de cette équipe dont on dit, un peu comme le Japon il y a quelques années, qu'elle progresse régulièrement, Bruno ?
Oui, bien sûr, mais après, là, je pense que l'équipe qui est alignée, quand même, c'est du costaud, quoi. C'est du solide. L'équipe de France qui est alignée, ce sont des joueurs qui ont de l'expérience,
c'est lourd, hein.
C'est étolier, ouais, quand même. Lopez à la charnière, donc bon, on s'appuie quand même sur une ossature expérimentée. Mais je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Même, bon, les Américains, on les a vus sur leur premier match, même contre les Anglais, c'est ça. ça. Et contrôler Tongien aussi, ils ont joué, hein, ils ont deux matchs.
Non, ils ont qu'un seul match.
Ils ont qu'un match, ouais, d'accord.
C'est leur deuxième match aussi.
Voilà, donc en plus ils ont pas mal de blessés, ouais, je pense que ça, si s'il n'y a pas de typhon, les 5 points sont prenables.
Oui, Pierre.
Je les ai trouvés un peu en deçà de ce qu'on attendait, surtout au niveau collectif, hein, ouais. Les Américains. Je crois que la priorité a été donnée depuis que le 7 est devenu olympique à l'équipe de 7. Les meilleurs sont partis à 7. On le voit dans les tournois qu'ils font. Ils ont, à chaque tournoi, ils sont en finale, voire ils gagnent. Donc le 15 m'a semblé un petit peu en deçà de ce qu'on attendait.
Mmh. Ouais, Frédéric. Ouais, je crois que le début de match va être très important. Si la France fait un bon début de match, à mon avis, ça passera. Les Américains, cette équipe-là, proposent beaucoup de collisions, beaucoup de jeux frontales, mais c'est pas beaucoup de mouvements. C'est une équipe qui est un peu frustre.
La plupart de ces matchs, d'ailleurs, Philippe Rouget-Thomas, quand on a deux équipes a priori déséquilibrées sur le papier, on se voit bien qu'elles se jouent sur la première mi-temps. Hein. Souvent, le score est acquis et après.
Comme on a dit, ne pas penser au bonus. Il faut déjà penser à la victoire en premier parce que c'est capital. Et ensuite, après, il faut voir la physionomie de la rencontre, s'il faut accrocher le bonus ou protéger les 4 points. Et donc, bien évidemment, comme on l'a dit au tout début, ne pas se tromper d'objectif, c'est la victoire d'abord et le bonus après. Et ensuite, ne pas se perdre dans des actions peut-être individuelles et respecter un petit peu les plans de jeu contre une équipe qui semble moins efficace dans le collectif.
Donc c'est une sorte de répétition générale, mais il faut faire très sérieusement.
Et très sérieusement, et surtout penser, comme on l'a dit précédemment, c'est un collectif et c'est pas une somme d'individualité qui peut arriver au bout.
Pierre, vous qui êtes un spécialiste des pronostics, vous pronostiquez quel résultat sur ce match France-États-Unis ?
C'est moi comme toi, quoi.
On n'est pas comme ça ici.
Non. Il faut pronostiquer l'équipe de France, bien entendu. Mais après, il y a les Tonga derrière. Mmh. Les Tonga.
Qui n'ont pas montré grand-chose, mais qui ont un rugby très rude en
ce moment. Qui est rude, ouais. Et puis, à la veille de rencontrer les Anglais, voilà. Donc,
Puis le danger, c'est de rencontrer une équipe qui n'a plus rien à perdre. Hein.
C'est ça.
Dans notre sport, c'est dangereux, quoi. Parce qu'ils ont, de toute façon.
Pour eux, gagner un match, c'est déjà une victoire en quelque sorte.
Et puis, ils vont jouer complètement libérés, puisque de toute façon, ils n'auront rien à gagner si jamais on en avait laissé.
Alors, ils n'ont rien à gagner, mais il y a quand même une nouvelle règle dans cette Coupe du Monde.
La troisième place
qualificative pour la Coupe du Monde suivante.
Mais je pense qu'eux, dans leur tête, ils seront libérés de toute pression de qualification. Et donc là, c'est une équipe très dangereuse dans ces conditions-là.
Donc, un match
sérieux. Surtout une équipe qui a joué éventuellement la qualification. Derrière.
Ouais, je pense quand même qu'ils vont se rappeler 2015.
Ils vont se rappeler 2015, oui.
Peut-être que nous aussi, il faut qu'on s'en rappelle.
Ce serait bien, oui.
Voilà, même si le niveau de jeu des Tongiens en 2015 n'était peut-être pas celui de cette année. Un match ce soir, Écosse-Samoa, en un mot, Bruno Salvé, un match qui présente peu d'intérêt.
Non, ça va être intéressant, je pense, parce qu'on est dans la poule notamment des Japonais. Là,
les Écossais, ils n'ont pas le droit à l'erreur.
Voilà, c'est ça. Les Écossais ont produit énormément de jeux face aux Irlandais, mais ont été bloqués par ce mur vert qui les a empêchés de marquer. Donc ça va être intéressant, ouais, de voir cette opposition de style entre les. Parce que ce sont les deux futurs adversaires des Japonais aussi. Donc,
match à suivre. Merci en tout cas à tous les quatre d'être venus sur le plateau du Club Rugby Radio Rythme Bleu. Philippe Rouget-Thomas, un grand merci de votre visite. Vous revenez quand vous voulez.
Avec plaisir. C'est un peu loin de la maison, mais pour faire je reviens toujours avec plaisir.
Pour faire une émission, peut-être. Coupe du Monde ou pas Coupe du Monde, vous êtes le bienvenu en tout cas.
Merci à
tous les quatre. Merci. Donc ce soir, n'oubliez pas Écosse-Samoa. On suivra le match de l'équipe de France contre les États-Unis mercredi prochain. On se retrouvera évidemment lundi prochain pour débriefer tout ça dans le Club Rugby RRB. Bonne soirée à tous.